c'est l'heure du journal, présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Il y aura une riposte française en cas d'usage avéré d'armes chimiques en Syrie, assure Jean-Yves Le Drian. Cette ligne rouge a été franchie depuis longtemps, lui répond le chercheur Olivier Lepic. Vous l'entendrez dans un instant. Donald Trump devrait confirmer ce soir la taxation de l'acier et de l'aluminium importés aux États-Unis. Nous devons, explique-t-il, protéger nos industries. Après l'Union européenne, la Chine avertit qu'elle ne se laissera pas faire. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, nous donnons la parole à Nasrin Sotoudeh. Cette avocate iranienne figure de la défense des droits de l'homme soutient les femmes qui ont décidé d'enlever leur voile en public en Iran. En France, l'exécutif annonce une cinquantaine de mesures en faveur de l'égalité homme-femme, notamment pour garantir l'égalité salariale et protéger les femmes des violences. Peu de précisions encore sur les moyens. Alors que le régime syrien accentue son emprise sur l'enclave rebelle de la Ghouta orientale à l'est de Damas, des médecins sur place affirment que de nouvelles attaques au chlore ont eu lieu hier soir. Selon les casques bleus, 50 civils ont été touchés. Dans un rapport publié mardi, la commission d'enquête de l'ONU sur les crimes de guerre accuse le régime de Bachar al-Assad d'avoir eu recours à des armes chimiques. Interrogé sur le sujet, le chef de la diplomatie française promet une riposte en cas d'utilisation avérée d'armes chimiques. Il y a aujourd'hui des faisceaux de convergence, explique Jean-Yves Le Drian. Nous n'avons pas les preuves, mais pour la France, c'est la ligne rouge. Des déclarations qui mettent en colère Olivier Lepic, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste des armes chimiques.
J'avoue que je ne comprends pas très bien cette position française autour de cette ligne rouge invisible qui de plus en plus est malheureusement tracée dans le sang des populations civiles syriennes. On pourrait comprendre une position française qui pourrait dire aux Français, bah, écoutez, nous ne souhaitons pas envoyer des jeunes Français sur le terrain mourir pour le peuple syrien. Ça aurait au moins le mérite d'une certaine clarté, d'une certaine franchise. Mais je dirais que ces reculades successives au lendemain même de la publication d'un rapport des Nations Unies sur les crimes de guerre qui non seulement, évidemment, accuse de manière extrêmement précise le régime syrien d'utiliser l'arme chimique en Syrie, d'écouter un ministre des Affaires étrangères qui dit « si d'aventure il était avéré que nous ayons des preuves », les preuves on les a malheureusement par centaines, que ce soit sur les prélèvements effectués sur les victimes, sur les matériels utilisés, l'utilisation d'hélicoptères, de barils de chlore cerclés d'explosifs, systématiquement sur des positions utilisées, tenues par des groupes opposés au régime de Bachar el-Assad. Voilà, cette notion de preuve aujourd'hui, elle pourrait être risible si le contexte n'était pas aussi dramatique.
Le chercheur Olivier Lepic, spécialiste des armes chimiques, répondait à Marie Bernardo. Aujourd'hui, l'entrée d'un convoi humanitaire de l'ONU dans la Ghouta orientale a été une nouvelle fois reportée en raison des combats. Donald Trump doit signer dans la journée un texte prévoyant une hausse des tarifs douaniers américains sur les importations d'acier et d'aluminium. Le président américain a tenu ces dernières heures à rassurer les vrais amis des États-Unis, comme il dit. À cela, par exemple, le Mexique et le Canada, ils promettent se montrer flexibles et coopérants. Les vrais amis, l'Union européenne et la Chine n'en font pas partie. Et Pékin a durci le ton aujourd'hui, Dominique André.
Ce matin, lors d'une conférence de presse devant des centaines de journalistes, le chef de la diplomatie chinoise a mis en garde les États-Unis. Certes, la Chine, premier producteur mondial d'acier et d'aluminium, ne fournit que 2% de l'acier importé par les États-Unis. Mais le régime chinois craint que Donald Trump ne soit tenté d'étendre ses velléités de protectionnisme à d'autres secteurs de l'économie. La Chine a pris la tête du groupe qui conteste le projet américain devant l'OMC. Wang Yi s'est montré cassant ce matin.
L'histoire montre que choisir la guerre commerciale est la mauvaise voie, surtout dans le monde globalisé d'aujourd'hui. La guerre commerciale est un mauvais remède. L'issue ne peut être que fatale. En cas de guerre commerciale, la Chine devra prendre les mesures nécessaires et justifiées. Les deux pays ont des intérêts mutuels. La Chine et les États-Unis sont les premières et deuxièmes puissances économiques du monde. Il faut s'asseoir autour d'une table et discuter calmement pour trouver une solution avantageuse pour les deux pays.
La Chine n'a pas précisé quelles pourraient être ses mesures de rétorsion. Il n'est pas impossible que l'agriculture américaine soit visée. La Chine a acheté l'an dernier pour 14 milliards de dollars de soja américain. Mais au-delà, c'est le déficit commercial américain abyssal en Chine qui nourrit les tensions. Il s'élèverait à 375 milliards de dollars selon les Américains.
Dominique André à Pékin. Le nettoyage ethnique des Rohingyas se poursuit en Birmanie, estime le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Il cherche à rassembler les preuves des exactions pour pouvoir les utiliser devant des tribunaux. Au même moment, le musée de l'Holocauste de Washington décide de retirer à Aung San Suu Kyi le prix qu'il lui avait décerné pour son combat contre la dictature et en faveur des libertés. Il lui reproche de ne rien faire pour aider les Rohingyas. Prix Nobel de la paix 1991, Aung San Suu Kyi est à la tête du gouvernement civil birman depuis 2 ans et après avoir été longuement encensée, elle est aujourd'hui en disgrâce sur le plan international. Une pétition circule même, Mathieu Laurent, pour que tous ces prix lui soient retirés.
Et oui, et il est question, Aurélie, de la responsabilité morale et politique de la déesse de la démocratie en flagrant délit de trahison d'idéaux mondialement encensés et de possibles déchéances en chaîne, inaugurées hier soir, vous l'avez dit, par le musée de l'Holocauste de Washington. Une campagne est effectivement en cours. Personnalités et ONG y participent, dont Halte au massacre en Birmanie, son président Nordin Erès.
Ça fait quand même 2 ans qu'elle a pris le pouvoir. Malheureusement, on n'a jamais vu autant de violence que depuis qu'elle est au pouvoir. À un moment donné, il faut, je pense, faire réagir cette dame qui a longtemps nié l'existence même d'un nettoyage ethnique dans son pays. Des solutions radicales, je dirais même symboliques, pourraient peut-être changer les choses. C'est malheureux qu'on en arrive là, bien sûr. On ne sait pas où on va, mais il faut le faire.
Et l'urgence est ailleurs, selon l'organisation Info Birmanie, qui, par la voix de sa coordinatrice, rappelle qu'Aung San Suu Kyi ne représente que la vitrine civile d'une oligarchie militaire qui contrôle les ministères régaliens et verrouille les accès au pays. Camille Cuisset.
On refuse aux enquêteurs d'accéder au territoire birman, que ce soit avec le refus de coopération avec la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Yang Gili, avec qui on refuse de coopérer depuis le 20 décembre dernier. Et on demande qu'il y ait des sanctions à l'encontre des responsables du nettoyage ethnique qui se poursuit aujourd'hui. On sait que ça se poursuit sous des formes différentes, mais le nettoyage ethnique se poursuit.
Aung San Suu Kyi, l'icône fracassée. C'est le titre de l'ouvrage écrit en novembre dernier par Bruno Philippe, le correspondant du journal Le Monde en Asie du Sud-Est. En quelques mois, l'ex-dame de Rangoon a encore un peu plus sombré dans le déni. Et notre confrère avance l'hypothèse selon laquelle elle renoncerait à son honneur pour transformer le pays. En somme, la profession de foi du père Bruno Philippe.
Il y a une dimension quasiment freudienne, une dimension psychanalytique chez Aung San Suu Kyi. Son père est mort quelques mois avant l'indépendance. Elle, finalement, elle veut achever une mission qui a été interrompue par l'assassinat de son père, parce que son père n'a pas pu voir finalement les fruits du combat qu'il avait mené.
Fût-ce au prix d'un discrédit international.
Fût-ce au prix d'un discrédit international, mais vous savez, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on est presque au-delà de ça. Je veux dire, elle est non seulement coupée du monde, mais elle est dans un état de paranoïa total.
Aung San Suu Kyi, l'icône fracassée, récit ramassé, lumineux de Bruno Philippe aux éditions des Équateurs.
Mathieu Laurent, la femme occidentale se caractérise par la séduction des hommes et la nudité. La femme musulmane est celle qui fait preuve de foi et de chasteté. Extrait du discours du guide suprême iranien à l'approche de la journée de la femme célébrée demain en Iran. Avec le hijab, l'islam a fermé la voie qui entraînerait la femme sur un chemin déviant, ajoute Ali Khamenei. Hier, une Iranienne ayant ôté son foulard en public a été condamnée à 24 mois de prison, dont 3 fermes. Et depuis décembre, plus de 35 femmes ont été arrêtées pour avoir bravé ainsi la loi islamique. Valérie Crova a rencontré l'avocate Nasrin Sotoudeh qui apporte tout son soutien à leur lutte.
Les 3 jeunes filles ont hissé leur foulard au bout d'une perche et les 3 font face à 3 accusations. Apparition en public sans voile, commettant en public un acte prohibé par la religion et encouragement à la corruption.
Et donc elles sont passibles de combien d'années de prison ?
Chacune d'entre elles pourrait être condamnée à 10 ans de prison. Mais 10 ans de prison, ça n'arrivera pas à éteindre ce mouvement. Ça peut même contribuer à l'étendre.
Si elles sont condamnées à 10 ans de prison ?
Oui, peut-être que le verdict étendra même le mouvement, car maintenant, nos filles disent ouvertement qu'elles sont contre le voile obligatoire. Les 3 ont affirmé cela devant le tribunal. Quand le juge leur a demandé pourquoi vous vous êtes comportées ainsi, les 3 filles ont répondu qu'elles voulaient exprimer leur désaccord. Elles ont demandé à la justice d'essayer d'organiser un référendum sur le voile obligatoire.
Quel argument vous allez mettre en avant pour les défendre ?
Notre premier argument, c'est que le voile obligatoire n'existe pas dans la constitution iranienne. Donc, si le code pénal islamique a obligé le port du voile, il a commis un acte contre la liberté des individus, et donc ce n'est pas légal. Une partie des femmes qui ont voté il y a 40 ans pour cette constitution étaient non voilées. À l'époque, le voile n'était pas obligatoire.
Nous avons dit également aux juges que s'ils voulaient considérer l'avis des juristes islamiques, plusieurs d'entre eux pensent que le voile n'est pas obligatoire dans l'islam. Beaucoup d'hommes croyants nous disent « le voile n'est pas dans notre priorité, ce sont les autres droits des femmes qui importent ». Mais je vous dis que celui qui a pu imposer aux femmes un mètre de tissu est capable de tout contre les femmes. C'est une question qui concerne les femmes et c'est aux femmes d'en décider et pas aux hommes.
Est-ce que vous pensez que ce mouvement de contestation a la sympathie de la population ?
Oui, beaucoup. Depuis que j'ai accepté de représenter ces filles, il m'arrive souvent dans la rue de rencontrer les gens qui me remercient pour mon travail et me disent qu'ils soutiennent ces filles.
Les hommes aussi ?
Oui, beaucoup d'hommes également. Les hommes et les femmes me le disent aussi.
Est-ce que vous avez bon espoir que, d'une part, ces jeunes femmes soient acquittées et, d'autre part, que leur combat débouche sur l'abrogation du caractère obligatoire du voile ?
J'ai de l'espoir dans les deux cas.
L'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh. L'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient sont désormais les cibles privilégiées de la puissante industrie du tabac, selon une étude publiée lors de la 17e conférence mondiale Tabac ou Santé, qui se tient actuellement en Afrique du Sud. L'Afrique subsaharienne, notamment, se situerait à un seuil critique. Depuis le début des années 80, la consommation de tabac y aurait augmenté de 52%. Pour Emmanuelle Béguinot, directrice du Comité national contre le tabagisme, c'est une épidémie industrielle dans une région jusqu'alors relativement épargnée par le tabagisme.
Depuis les années 90, il y a eu des stratégies d'investissement massives de la part des fabricants de tabac sur le continent et il y a eu une envolée de la consommation, en particulier la consommation des jeunes dans les différents pays d'Afrique. C'est ce qui a conduit à ce que les pays se réunissent et négocient sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé ce traité de lutte contre le tabagisme qui s'appelle la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Il est très précieux parce qu'il réunit les mesures qui permettent de réduire la consommation de tabac et de contrer le développement de l'épidémie. Mais au-delà de la ratification des mesures, il faut effectivement les mettre en œuvre. Ce sont des pays qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Il y a un lobby très féroce qui émane du lobby tabac qui va contrer ces mises en œuvre. Les fabricants n'hésitent pas à menacer les pays qui veulent augmenter les taxes de poursuites en justice. Et quand la France est attaquée par les fabricants de tabac pour des mesures, elle a la capacité juridiquement de se défendre, mais souvent dans les pays d'Afrique, c'est pas le cas. Et c'est tout l'enjeu d'avoir aussi une coopération internationale pour pouvoir aider les pays à se défendre par rapport à ces menaces et ces attaques des fabricants.
Emmanuelle Béguinot, jointe par Eva Jednak. Les entreprises du CAC 40 sont en pleine forme. Les résultats annuels publiés ces derniers jours montrent que l'année 2017 a été particulièrement faste pour les ténors de l'économie française. Les 40 groupes qui composent l'indice vedette de la Bourse de Paris ont engrangé 94,3 milliards d'euros de bénéfices nets l'an dernier. Bonsoir Nabel Grelier.
Bonsoir Aurélie.
Et en tête de classement, le trio Sanofi, BNP Paribas et Total.
Oui, le classement de tête est peu ou prou le même que l'année dernière. L'industrie pharmaceutique, la banque, le pétrole, avec AXA et LVMH, vous y rajoutez l'assurance et le luxe et vous avez ce qu'on appelle les fleurons de l'économie française, en tout cas ceux qui profitent le mieux de la mondialisation. Après 75 milliards d'euros de profits l'année dernière, les entreprises du CAC 40 en affichent cette année plus de 94 milliards, soit près de 20% de plus. L'euphorie dans les multinationales est générale. Depuis 3 ans, la conjoncture est telle que même les canards boiteux s'en sortent bien, commente dans le journal Le Monde ce soir un analyste économique. En effet, sur 40 groupes, 31 ont réussi à accroître leurs profits de façon parfois spectaculaire. La plupart des poids lourds français ont non seulement retrouvé des volumes de profits enregistrés en 2006-2016, juste avant la crise financière, mais signent également cette année des records. C'est le cas pour Renault ou encore PSA. Cette véritable envolée des groupes français et également étrangers sont portées par une conjoncture exceptionnelle. Les taux d'intérêt sont restés très bas, la hausse des matières premières reste très raisonnable et surtout la demande a repris, la croissance repart un peu partout grâce aux fonds généreusement injectés par les banques centrales. La question est de savoir si cela va durer, mais surtout si cela va mener à une vague massive de création d'emplois et des augmentations de salaires. Après des années de disette salariale, les Français et les Européens l'attendent, tout comme la BCE qui souhaite voir le retour d'un peu d'inflation autour de 2%, ce qui serait le signe d'une économie en bonne santé.
Annabelle Grelier, l'égalité homme-femme, c'est bon pour les entreprises, explique Emmanuel Macron. Elles n'en sont que plus performantes et plus innovantes. Le gouvernement promet aujourd'hui un renforcement des contrôles et des sanctions pour faire respecter l'égalité salariale. Les mesures annoncées aujourd'hui par l'exécutif concernent aussi l'accompagnement des femmes victimes de violences ou encore la mise en place de référents égalité dans les établissements scolaires. Parmi les objectifs fixés, parvenir à ce qu'il y ait 40% de filles dans les filières scientifiques en 2020. Beaucoup de bonnes intentions, Charlotte Lalanne, mais concrètement, on fait comment ?
C'est toute la question. Ça suppose presque une révolution des mentalités. Faut-il plus de sensibilisation ? Depuis des années, les campagnes s'enchaînent sur le thème « les métiers n'ont pas de sexe » sans réels effets. Un seul exemple, alors qu'elle représente la majorité des étudiants en France, on compte moins de 30% de femmes parmi les recrues des écoles d'ingénieurs. Alors pour en finir avec cette orientation sexuée, il faut s'attaquer en priorité à la formation des enseignants, estime Françoise Vouillot, maîtresse de conférence en psychologie de l'orientation. Elle préside la commission stéréotype de genre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes.
Si les enseignants ne sont pas formés à repérer les stéréotypes, à voir comment dans leur pratique, dans leur manière de traiter les filles et garçons, par exemple dans les matières scientifiques, on le sait depuis très très longtemps, les sociologues de l'éducation ont mis en évidence que les filles et les garçons, les interactions avec les enseignants n'étaient pas les mêmes dans les cours de mathématiques et physique, que les notations ne sont pas les mêmes, et ben tout ça c'est des choses un peu imperceptibles dont les enseignants et les enseignantes n'ont pas conscience, ils ne le font pas exprès, donc il faut les former à repérer ce qu'il peut y avoir de stéréotypes dans leur pratique pédagogique, à repérer les stéréotypes dans leur manuel scolaire. Ça, c'est la clé de voûte.
Au-delà des objectifs chiffrés, des actes concrets, donc une réserve qui concerne d'autres mesures annoncées ce matin, Charlotte.
En faveur de l'égalité professionnelle, par exemple, le gouvernement promet des sanctions financières contre les entreprises qui présentent des écarts injustifiés de salaire femmes-hommes. Pénalité à hauteur de 1% de la masse salariale. Or, des dispositions similaires existent déjà. D'ailleurs, pour la première fois en 2013, 2 sociétés ont été sanctionnées. Depuis, 3000 entreprises ont été mises en demeure, seulement 157 sanctionnées. Pour passer de la parole aux actes, il faut plus de contrôle de l'inspection du travail. Pour cela, le gouvernement promet de les multiplier par 4. Encore faut-il des moyens. Sur ce point, la CGT reste sceptique. Elle rappelle que les effectifs d'inspecteurs du travail ont baissé de 20% ces 10 dernières années. Enfin, plusieurs élus, notamment communistes, pointent des paradoxes. Un exemple, paradoxe entre la volonté de mieux accompagner les femmes victimes de violences sexuelles dans l'entreprise et la suppression par la loi travail des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des CHSCT, justement considérés comme des outils permettant d'identifier des cas de harcèlement.
En cette journée du droit des femmes, une étonnante initiative, celle du New York Times, le célèbre quotidien américain, est notamment connu pour ses pages nécrologiques qui saluent chaque jour la disparition d'une personnalité. Mais en 167 années d'existence, de nombreuses femmes connues n'avaient pas eu les honneurs de ces pages. Plusieurs d'entre elles ont pourtant marqué l'histoire des États-Unis. Et le New York Times a donc décidé de réparer cette erreur. On retrouve Grégory Phillips à Washington.
15 portraits de femmes, mais il y en aura d'autres, 15 femmes oubliées par cette rubrique nécrologique qui, depuis 1851, occupe les dernières pages du quotidien. Certains oublis sont vraiment étonnants. La photographe Diane Arbus, morte en 1971 et qui n'avait pas eu droit à son portrait. Charlotte Brontë, romancière anglaise, l'auteur de Jane Eyre, rien sur elle non plus en 1855. Et puis il y a des femmes moins connues, mais qui incontestablement auraient mérité les honneurs du New York Times. Mary Ewing Otterbridge, première joueuse de tennis américaine, morte en 1886. Ida Wells, décédée à Chicago en 1931, journaliste, militante des droits civiques et qui toute sa vie s'est battue contre le lynchage des esclaves dans le sud des États-Unis. Chaque portrait est passionnant. L'anglaise Ada Lovelace, morte en 1852, connue pour avoir écrit le premier programme informatique. Marsha Johnson, militante transgenre à New York, modèle pour Andy Warhol. Ou encore Emily Warren Roebling, qui a terminé la construction du Brooklyn Bridge à New York quand son architecte de mari est tombé malade. Et puis il y a celles qui ont eu droit à leur nécrologie mais imparfaite, une brève pour la mort d'Harriet Tubman en 1913, c'était une militante historique des droits civiques, ou encore Frida Kahlo, présentée d'abord comme la femme de son mari Diego Rivera. Le New York Times va donc réparer ses oublis, mais constate que encore aujourd'hui, 80% des nécrologies publiées dans ses colonnes sont des portraits d'hommes, 20% de femmes seulement.
Il y a toujours 4 femmes à l'Académie française, 4 sur 35, puisque c'est un homme qui succède aujourd'hui à Alain Decaux. Il s'agit du romancier Patrick Grainville, prix Goncourt 1976, et qui vient de publier Falaise de fou aux éditions du Seuil. Enfin, Marine Le Pen a eu gain de cause. Les militants ont validé le principe d'un changement de nom du Front National à une courte majorité. La présidente du FN proposera un nouveau nom dimanche au congrès du parti à Lille. La météo, des nuages et de la pluie sur le sud-est et sur une petite moitié nord l'après-midi. Le ciel sera plus lumineux sur le reste du pays. Les températures de moins 1 à plus 8 degrés le matin, de 10 à 16 l'après-midi, jusqu'à 19 dans le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.